Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
En fait, la revente, c'est pas un but, c'est pas une fin en soi non plus, c'est une conséquence. Je pense pas qu'on puisse trouver un bon entrepreneur qui soit focalisé sur la revente. Parce qu'en fait, il y a tellement d'embûches avant que si on pense à ça, on va nulle part. Quoi. Et puis surtout, on peut faire des mauvaises décisions.
Bienvenue dans Take-Off, un podcast où je pars à la rencontre des femmes et des hommes qui sont à l'origine des plus belles startups françaises. Merci à eux qui me reçoivent à leur domicile autour d'un petit déjeuner et merci à vous d'être là, toujours plus nombreux à nous suivre grâce aux plateformes d'écoute iTunes, Deezer, SoundCloud et toutes les autres. Bonjour, je suis Guillaume Brajoras. Ce matin, je suis en Occitanie, tout près de Montpellier. Dans un domaine résidentiel du petit village de Saint-Gély-du-Fesque, Loïc Soubéran m'accueille chez lui pour me raconter les coulisses de sa fulgurante ascension. L'accueil est à la hauteur de la réputation de la région et le petit déjeuner s'annonce savoureux. Cela tombe bien, il va me parler de sa nouvelle start-up Luncher qui veut réinventer la pause déjeuner, mais aussi de Tids, sa première entreprise, qu'il a quittée au moment de sa revente à la maison mère de SFR pour 285 millions d'euros. Il abordera aussi la question de l'endurance de l'entrepreneur, de ce que la réussite a changé dans sa vie et de ce qui le fascine dans l'évolution de l'espèce humaine. Mais pour commencer, il me raconte pourquoi rien ne se passe jamais comme prévu.
Ça s'est fait en plusieurs étapes, mais comme quoi il n'y a que la vérité du terrain qui parle et vous avez beau faire 1000 plans dans votre tête au préalable, il n'y a jamais rien qui se passe comme prévu. Et moi, l'idée vraiment de base était vraiment effectivement de simplifier la pause déjeuner et de faire gagner du temps et redonner du temps de qualité aux employés en ayant une application permettant de précommander son déjeuner et d'aller le chercher, et c'est prêt quand vous arrivez, quoi. Voilà. Ça, c'était vraiment l'idée fondatrice parce que, à titre personnel, il s'avère que tous les jours, j'allais chercher ma salade et j'attendais un quart d'heure pour demander exactement la même chose. Donc il n'y avait aucune plus-value, ni pour moi, parce que j'étais frustré d'attendre, et aucune plus-value pour le salade bar, parce qu'il y avait une queue d'enfer et plein de gens qui partaient parce qu'il y avait trop la queue. Donc si on optimisait ce process-là, de fait, la chaîne de valeur était optimisée et tout le monde était gagnant. Bon. Ça, c'est l'idée de base. Idée de base sur laquelle Daphne et Marie, plus particulièrement, parce que je la connaissais de Tids,
Marie
et Clan, qui était mon premier investisseur chez Tids, aux côtés de quand elle était chez Elia. Ils avaient investi 4 millions aux côtés de Partec sur la toute première levée de Tids, il y a 6 ans. Et du coup, je lui dis, ben voilà, j'ai cette idée qui me trotte, je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il y a un coup à jouer. Il y a un truc qui déconne dans le midi, il y a un truc qui déconne. Je sais pas trop quoi, mais il y a un truc qui déconne. C'est pas normal qu'il y ait si peu d'informations, que tout le monde attende, que tout soit compliqué. J'avais ce sentiment de complication. Et donc elle me dit, ok, parfait, allez, on se lance. Parce que moi, il était hors de question que je quitte Tids si j'avais pas les moyens de mes ambitions sur Luncher. Donc elle me donne le go. Très très vite, du coup, on démarre les développements. Là, on parle de fin 2016. Hein. Mmh. Et pendant qu'on développait, bah, du coup, moi, je commence à faire le tour des restos pour leur dire, bah, regardez, avec les premières maquettes. Mmh. Regardez ce qu'on va sortir en janvier. Est-ce que ça vous intéresse d'être référencé? Et là, c'est marrant parce que je suis allé voir ce fameux salad bar là, forcément.
Toujours le même.
Et je vais le voir et il me dit, bah ouais, c'est intéressant ton idée, mais est-ce que ça prend les titres à 100 ? Je dis, oh, non, mais bon, pas encore, quoi, mais on a le temps, non ? Et là, il me dit, est-ce que tu sais que chez moi, et je sais que chez les autres, c'est plus ou moins pareil, 65% de chiffre d'affaires est fait sur des titres récents. Je suis, oh là là, merde, bon, ok. D'où l'intérêt d'aller très vite voir les gens ouais. Et arrêter de fantasmer dans sa tête des idées, être confronté aux réalités de terrain immédiatement. Donc nous, on était en train de développer, donc on n'était pas sortis. Et ça faisait qu'un mois qu'on développait, donc. Waouh, donc chamboule tout dans ma tête, forcément. Je me dis, merde, en fait, effectivement, il y a un vrai problème, mais peut-être que le gros problème, c'est les tickets restaurants qui sont encore sur papier et qui font que les gens, quand ils ont des tickets resto, ils veulent les dépenser, quoi. Et avant toute chose, donc vous pourriez leur proposer la plus belle des plateformes. Ils n'en ont rien à faire s'ils ne peuvent pas les payer avec leur ticket resto. Et du coup, là, ça fait tilt complètement dans ma tête. Je me dis, mais en fait, la vraie opportunité, c'est de couvrir toute la chaîne de valeur du déjeuner. Et qui dit déjeuner, dit titre restaurant. C'est impossible de pas toucher à ça. Et quand on tire la pelote, on se rend compte qu'effectivement, le marché des titres restaurants, c'est un marché qui a 50 ans, qui est basé sur papier encore, où les acteurs en place n'ont pas fondamentalement intérêt à digitaliser, quoi, accélérer le processus de digitalisation, et où tout le monde attend patiemment mais sûrement qu'une loi passe pour être contre-inforcé, mais tant qu'il y a rien qui bouge côté légal, bon, dans l'absolu, ça va bien, quoi.
On est dans un marché de rente quasiment.
Ah bah oui.
C'est quoi les volumes?
Là, si on parle en France, on parle de... Alors, les chiffres varient à 500 millions près, mais on est entre 6 milliards et 6 milliards et demi de volume d'émissions sur des marges faibles, mais par contre des profits très intéressants dès lors que vous gérez du volume. Donc on a des acteurs en présence depuis 50 ans. Grosso modo, le gâteau est divisé en 4. Hein. Et puis surtout avec une capacité d'innovation, pas une capacité, mais une volonté peut-être même d'innovation mesurée, dirons-nous. Et ça, c'est typiquement le genre de marché intéressant pour une start-up. Parce que là, venir un petit peu modestement, mais malgré tout avec ambition, donner un petit coup de pied dans la fourmilière. Pas forcément par le prix, mais aussi par la qualité du service à proposer et la disruption avec des technologies du 21e siècle. Oui. Et donc, du coup, on s'est c'est marrant parce que du coup, on s'est lancé fin 2016. J'avais les idées extrêmement claires de, en fait, la vraie opportunité qu'on allait adresser. Mais on ne pouvait pas le dire parce que si vous voulez vous imposer sur ce type de secteur, il faut être mieux 10 ans.
Ouais.
Pour être mieux 10 ans, il faut être soit meilleur au niveau du prix, soit meilleur au niveau de la technologie. Nous, notre pari, c'était d'être meilleur sur les deux pans, mais surtout la technologie. Et là, la plateforme qu'on avait imaginée initialement serait en fait le pilier de notre stratégie commerciale. C'est sur ça qu'on allait faire la différence.
Parce qu'il faut forcément masquer.
Voilà. Et donc du coup, apprenons en marchant, prenons le temps, dans l'absolu, on n'est pas méga pressé non plus, sortons la plateforme, mettons dessus des dizaines de milliers de consommateurs pendant quelques mois pour s'assurer qu'on gère correctement ce métier de prise de commande, etc. Et le jour où on se sentira prêt à commercialiser, on sortira du bois, quoi. Et c'est exactement ce qui s'est passé début 2017. Donc on a mis un an, un an mine de rien à être prêt tant d'un point de vue opération des titres restaurants en tant que tel, parce qu'il y a un cahier des charges quand même plutôt fourni et pas simple à adresser, que d'un point de vue plateforme qui nous servait vraiment de faire de lance de notre stratégie commerciale. Et on est ravis du résultat parce que non seulement on a effectivement Enfin, moi, ça paraît incroyable, mais pendant un an, alors que ça faisait un an qu'on en parlait en interne, hein, on savait pourquoi nous, on travaillait dans l'équipe. Il n'y a rien qui a fuité.
Ouais.
Donc ça, bravo à toute l'équipe. Parce qu'il n'y a rien qui a fuité, rien du tout. Et il y a eu un vrai effet de surprise, je pense, en début 2017, début de 2018, pardon. Un an après. Et c'est marrant parce que là où on s'est bien marré, mais dans le sens positif du terme, c'est qu'il y a plein de gens qui n'osaient pas nous dire que grosso modo le launcher tel qu'il avait été présenté dans la presse un an auparavant, ils n'y croyaient pas vraiment, et que là, tic, ah ouais, ok, là ça fait sens, ok, là vous êtes partis.
Et tu te souviens des premiers retours que tu as eu, notamment de la direct ou indirect, mais de la part des fameux grands acteurs historiques?
Bah, j'allais dire beaucoup de bienveillance, mais non. Bah, écoute, c'est toujours délicat d'en parler, mais tu te doutes que il y a soit de l'indifférence, soit de l'agressivité.
D'accord. Voilà. Mais ça se matérialise comment? Parce que ça, on en parle régulièrement dans Takeoff, mais c'est les startups qui réussissent arrivent sur des modèles où ils disruptent complètement, ouais. Et donc ils font mal à des acteurs, ouais, historiques très très placés. L'exemple qu'on connaît tous, c'est évidemment Uber ou Airbnb. Comment ça se matérialise vraiment concrètement? Est-ce que c'est des pressions en direct, indirectement?
Il y a des pressions directes, hein, je peux le dire. Je ne dirai pas qui, ouais, par contre, bien évidemment. Mais il y en a. Direct par des courriers qu'on reçoit, indirect par des pressions commerciales dingues où il y a du dénigrement.
Mm-hmm.
Ça, il ne faut pas. Enfin, nous, on était conscients de tout. Mm-hmm. Donc il y a exactement zéro surprise, yeah, à cela. L'idée, c'est de faire du bruit pour faire perdre du temps. On va tâcher d'être rester concentré sur nous-mêmes et à faire ce qu'on a à faire. Après, du dénigrement commercial, ça passe par du mensonge, sur que la solution ça marche pas, ou je sais pas quoi, ou que c'est pas légal. Enfin, on entend tout. Tout est bon, de toute façon. Mmh. Tout est bon pour essayer d'embrouiller l'esprit de nos clients.
Mmh.
Mais la réalité, c'est que, comme tout le monde le sait, ça marche pas.
Mais comment tu restes...
Ça marche pas, le dénigrement. Ça,
ouais,
ça marche pas.
Ça marche. Ça peut ralentir, en tout cas, parfois.
Mais non. D'accord. Mais non. Mmh. Mais non.
Donc ça, c'est par apprentissage que tu as arrivé à cette...
Mais quand, enfin, je sais pas, mais toi, à la place de quelqu'un, t'es intéressé par un produit, et il y a le concurrent qui vient te dire « Mais non, mais surtout pas, machin. » Qu'est-ce que tu penses?
Oui, voilà, c'est sûr.
Bon, bah, tu te dis « Il faut vraiment que je teste. » Et c'est ce que tu fais. Voilà, donc nous, on fait un super démarrage, et on est content. Et là, en plus, avec la levée qu'on vient d'annoncer...
Ouais.
Du coup,
donc 11 millions.
11 millions, effectivement. Je pense qu'on a les moyens de nos ambitions.
C'est pour faire quoi, justement, les 11 millions? Parce que ça arrive quand même très vite dans
Bah, ça arrive très vite, mais si tu veux, quand, si tu vois la croissance qu'on a, on a un vrai product market fit, si tu veux. Donc, on l'avait intuité il y a un an.
Mm-hmm.
On s'est dit, on veut faire ça à l'intuition. C'est ça qui va faire la différence. Donc faisons-le, préparons le lancement. Et ça s'est confirmé suite au lancement. Et là, ça fait 3-4 mois là, maintenant, de croissance assez dingue, qui mécaniquement intéresse tout le monde. Parce que là, on parle d'un marché notre produit est scalable, le marché est gigantesque. On arrive en disruptant complètement les choses, en changeant le paradigme. Hein. Mm. On n'est pas qu'un simple moyen de paiement. Là, on parle de changer l'expérience même des collaborateurs durant le déjeuner. Notre plateforme, elle permet de commander en équipe, de bénéficier de réductions à chaque déjeuner, jusqu'à 25% de réduction. 25% de réduction sur chaque déjeuner, c'est quand même une proposition de valeur qui est incroyable. Mm. Et le public de start-up. Là, pour l'instant, on a des sociétés de une. On a quelques sociétés une personne à 500 personnes. Mm-hmm. Elles sont toutes dithyrambiques sur le service rendu, quoi. Et donc, du coup, de fait, vu qu'on a des ambitions, à un moment donné, certes, on a le marché, certes, on a le produit, mais il faut aussi les finances. Et donc, naturellement, on cochait toutes les cases pour être correctement financé, rapidement.
Et comment tu vois l'évolution entre... Parce que là, si on fait le parallèle avec Tid, deux croissances très fortes dès le départ.
Ouais.
Mais des rythmes de levée de fonds différentes, plus rapides pour launcher. Qu'est-ce qui a changé entre les deux ?
En fait, ce qui a changé entre les deux, c'est que déjà j'ai eu la chance de partir avec 2,5 millions en banque, contrairement à Tid. Donc, à partir de là, de fait, tout le cycle entre le premier jour et la première levée de fonds, ben, lui, il avait été raccourci à 0 jour, quoi. Enfin, à 1 jour, quoi. Donc déjà, je gagne un an et quelques, un an et demi, sur le processus de constituer une équipe solide, parce qu'il faut des fonds. Chez Tid, tant qu'on n'avait pas eu les 4 millions, on recrutait sur fonds propres, on recrutait un par-ci, un par-là, et voilà, mais normal, hein. C'est la vie de toutes les boîtes, quoi. Après, de fait, quand vous partez avec 2,5 millions en banque, ben, mécaniquement, vous pouvez recruter une équipe de seniors plus rapidement, mm-hmm. au lieu de juniors. Et l'avantage des seniors, c'est qu'ils sont plus autonomes que des juniors, hein, de fait, on n'invente rien.
Qu'est-ce que tu appelles un senior, du coup ?
Une dizaine d'années d'expérience, professionnelle, qui s'est pris des bonnes bûches, déjà. Qui comprend ce que c'est qu'exécuter, et qui, de fait, s'est pris tellement de bûches et a tellement d'expérience qu'il est autonome, il sait ce qu'il a à faire. J'ai pas de micromanagement à faire. J'ai rien contre le micromanagement, loin de là, sur des profils juniors, parce qu'il faut faire monter en compétences les collaborateurs. Mais, de fait, si vous avez le choix, quand vous partez seul fondateur, le premier réflexe que vous avez, c'est de reconstituer, entre guillemets, une équipe de fondateurs. Donc, d'avoir 5 ou 6 ou 7 personnes autour de vous, ultra autonomes, sur chacun de leurs secteurs. Quoi. Donc, on va plus vite.
Et voilà. La première recrue sur Launcher, c'est qui ?
Alors, la toute première... c'est marrant parce que du coup, j'ai commencé... parce qu'on s'est commencé à recruter. Il y a toujours des préavis, il y a toujours le temps de recrutement, etc. Donc la toute première équipe que j'ai montée, c'est que des freelances, 100% de freelance. 100% de freelance, donc en développement, en design, en commercial même. Et progressivement, l'idée, c'était de recruter au fur et à mesure et d'arrêter les missions des freelances aussi au fur et à mesure pour... au fur et à mesure que les employés arrivaient, quoi. Mais ce qui est sûr, c'est que toute la team, on va dire fondatrice, on a eu les financements en décembre, en décembre 2016, en avril 2017, hormis le directeur commercial, tout le monde était arrivé à bord, quoi. Ouais.
Mais comment tu arrives à convaincre des seniors de te rejoindre dans une aventure aussi jeune, avec des perspectives encore peut-être un peu floues quand même sur le...
Bah, tu sais, sur le papier, mine de rien, il y avait un projet ultra ambitieux, parce que, bien évidemment, ce que je leur pitchais, c'est pas la plateforme de commande, c'était quel marché on allait attaquer, mais qu'il fallait qu'ils soient patients, parce qu'on était en train de le développer, mais mine de rien, il fallait quand même préparer en amont tout ça, quoi. Donc c'est maintenant qu'il fallait monter à bord. Donc il y avait quand même l'ambition du projet, le financement déjà existant, donc ça sécurise quand même certains profils, parce que de fait, bah, tu peux te permettre, si tu veux, j'avais pas un discours où je leur disais tu viens, mais s'il te plaît, fais un effort de 15-20% parce que tu comprends. Non, c'est tu viens pour bosser, tu viens dans ce qu'on espère être une fusée, donc on va pas discuter salaire. la seule chose qui doit te préoccuper, c'est de faire avancer la boîte, quoi. Donc, politique super simple, tu as ton salaire actuel, je prends exactement le même.
D'accord.
Boum. Et ça, du coup, ça facilitait beaucoup de discussions aussi.
Avec un peu d'action gratuite, les BSPCE.
Avec des BSPCE associés, ouais. Ce qui paraît logique. Ça, dans 100% des cas, ça paraît logique. 100% des employés, avant la belle levée là, de 11 millions, ont eu accès aux BSPCE.
D'accord.
C'est important, parce que, mine de rien, même si les risques étaient mesurés, ils ont quand même fait le choix de rejoindre cette boîte. Et c'était une vraie marque de confiance pour moi, je trouve. Parce qu'il y avait tout à faire. Donc, mais du coup, c'est important que tout le monde retire du bénéfice de ça aussi et puis se sente complètement dedans, quoi. Voilà. Et voilà.
Tu sens que c'est vraiment un outil efficace pour l'engagement des collaborateurs ?
Ça dépend les niveaux. Non, mais ça dépend les niveaux. Ça dépend les niveaux, mais ça reste quand même de l'actionnariat. Et du coup, non, il y a quand même ce sentiment d'appartenance, mais qui est réel. Après, bien évidemment, que c'est pas que les BSPCE qui font que tu vas réussir à préserver un top talent. C'est un tout. C'est comme, c'est pas en mettant un baby que tu vas garder quelqu'un. Tu
c'est
vois.
Important le baby, mais pas à ce point-là.
Voilà. Non, le baby, à la limite, c'est l'état d'esprit, mais ça va bien au-delà, quoi.
Ouais.
Bien au-delà. Moi, ce qui compte le plus, ce sur quoi on est le plus attaché, c'est le. C'est l'autonomie, la prise d'initiative. Voilà. Je déteste, on déteste même collectivement, parce qu'on partage les mêmes valeurs, tout ce qui est bottleneck. Vraiment les goulots d'étranglement décisionnel. Ah, attends, il faut demander la validation de telle personne, telle personne, telle personne. Avant de... C'est la cata, quoi. C'est la cata. Donc là, je pense que tout le monde sait qu'il peut faire avancer la boîte comme il l'entend, dès l'instant où. Où c'est ça va dans le bon sens et que personne ne met des bâtons dans les roues. Voilà. Donc là, c'est entre guillemets facile parce qu'on est une vingtaine, enfin trentaine maintenant. Peut-être que quand on sera 500, ce sera différent, mais on va se battre pour que ça soit pas différent.
D'accord. Revenons sur l'aventure de Tiz, justement, créée en 2011 avec Loïc Jaurès et Olivier Reynaud.
Oui.
La publicité, c'était pas un secteur que tu connaissais.
Non, pas du tout.
Du tout.
Donc ça aussi, ça comme les tickets resto. Hein.
Comme les tickets resto. Donc ça aussi, ça a tendance à me poser question. Et je me dis, mais comment on choisit, quoi, en jouant au bento le soir, en se disant, tiens, je vais attaquer tel secteur, mais la pub, on n'y va pas par hasard quand même. Donc,
non,
comment s'est née cette idée un peu ?
En fait, dans les deux cas, hein, tant sur Tiz que sur Launcher, tout est parti assez naïvement et de problématiques. Personnel, enfin perçu en tant que consommateur. Tu vois, là, quand les titres restaurants, on s'en rend compte parce qu'on parle à un resto, on se dit ah, merde, mais en fait, oui, c'est ça. Les consommateurs ont besoin de ça, donc de fait, il faut aller vers ça. Sur Tiz, c'était un peu pareil. L'idée, c'était de faire financer des contenus payants. On était étudiants à l'époque. Et on n'avait pas d'argent. Donc bien évidemment, tout ce qui touchait à la gratuité nous intéressait. Sauf qu'on comprenait bien aussi que produire du contenu, ça coûtait de l'argent. Et donc à ce titre, rien de plus naturel finalement que de faire financer un contenu, quel qu'il soit finalement, par de la publicité. Et on est vraiment parti from scratch. Enfin, moi je me souviens, j'avais fait une formation... J'avais l'énorme chance de bénéficier d'une bourse à Nîmes. Donc tous les jours, on faisait les allers-retours entre Montpellier et Nîmes juste pour que je touche mes 800 euros de bourse, tu vois, par mois. Et du coup, l'incubateur m'avait payé aussi une formation à Paris. Pour que j'apprenne ce qu'était le milieu de la pub, quoi. Donc un CPM, je ne savais pas du tout ce que c'était, enfin, from scratch, zéro. Et du coup, je trouve que, mine de rien, je trouve que c'est presque un atout, parce qu'en fait, notre jeunesse, notre fraîcheur, on l'a transformé en atout, parce que je pense vraiment que les gens qui arrivent de loin appréhendent une problématique de manière différente. Tu vois, dans les titres restaurants, on ne connaît rien. Hein. Mmh. La législation autour des titres restaurants, on ne connaît rien du tout. Et pourtant, ça ne nous empêche pas de créer énormément de valeur parce que je pense qu'on n'a pas de carcan. Mmh. On n'est pas limité techniquement, on n'a rien. Donc, il y a tout à faire. On n'est pas limité par les équipes en place, il n'y en a pas. Donc, à partir de là, ces feuilles blanches, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour le bénéfice de nos clients, quoi. Et c'est comme ça, je pense, qu'on pense out of the box, donc vraiment différemment, finalement. Et on change le paradigme, et c'est important. Et si tu regardes bien les deux histoires, Launcher, on change complètement le paradigme, complètement. On arrive avec une approche disruptive qui a étonné. Et sur Teez, c'était la même. Alors ça parle un peu moins aux gens parce qu'on est sur un secteur publicitaire B2B, etc. Mais quand tu arrives sur un marché où tu n'as que ce qu'on appelle des formats in-stream, donc une publicité vidéo associée à un contenu vidéo comme sur YouTube ou Dailymotion, quand vous voulez voir une pub, on vous met une pub. Quand vous voulez voir une vidéo, pardon, on vous met une pub juste avant. Le simple fait de dire, attendez, mais pourquoi est-ce qu'on se contenterait d'associer une pub vidéo, un contenu vidéo, pourquoi est-ce qu'on pourrait pas mettre cette pub vidéo ailleurs, quoi, et l'associer à d'autres types de contenu, type du texte ou type la musique ou je sais pas quoi. Et ça, c'est ce qu'on appelait l'outstream. Et ben, c'est ce qu'on a inventé, et il s'avère que là où tout le monde était concentré sur l'instream, qui était un gâteau de taille X, et où il y avait des dizaines d'acteurs qui avaient fait des levées de fonds, etc. Très, etc. Très puissant, ouais. Nous, on était sur l'outstream, et seul dans notre grande mare, et sur, en fait, une taille qui est de marché deux fois plus grosse. Et donc, le problème, c'est que quand vous êtes concentré sur un truc, vous avez peur de mourir en permanence. Donc, tous les gens qui étaient concentrés sur l'instream, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont tenté de s'entretruer entre eux et d'être le meilleur de l'instream, tant qu'à faire. Et nous, pendant 2 ans et demi, ça je m'en souviens toujours, parce qu'on se dit, c'est pas grave, ils vont arriver. Ouais. Pendant 2 ans et demi, on a eu le temps de poser nos jalons en France et surtout à l'international. Et la réalité, c'est que quand ensuite tout le monde s'est réveillé, c'était beaucoup trop tard. Et c'est comme ça qu'on a fait une boîte beaucoup plus grosse que tous les acteurs de l'instream, qui pourtant était le marché phare de l'époque.
Et juste sur la question du financement, au démarrage aussi, il fallait bien la financer, cette aventure. Il y a des petites histoires, je crois, qui étaient assez rigolotes.
Complètement. En fait, c'est simple, on lève 4 millions avec Partech et Laya. Parce qu'on avait trouvé le bon product market fit. On avait craqué le jeu, quoi. Après, il restait qu'à exécuter. À l'époque, on faisait 8 millions de chiffres, quand même, hein, parce que, donc c'était honorable, mine de rien. Et là, par contre, on commence à consommer. On consommait du coup du cash en pagaille, parce que justement, on savait qu'il fallait aller extrêmement vite. Et donc la question était simple, hein. c'était soit on relevait, soit on mourait, mais bon, une pépite comme ça, elle meurt pas, soit on s'adossait à quelqu'un, quoi. Et du coup, il s'avère qu'on s'est adossé avec eBuzzing, avec la ferme volonté de faire le 1 plus 1 égale 3, où finalement, nous, on avait le produit, la techno et même un réseau d'éditeurs juste fabuleux. Mais on avait créé tellement d'inventaire avec notre format InRead. C'est une publicité vidéo dans l'article, hein, que tout le monde, enfin, que pas mal de gens connaissent, je pense, maintenant, qu'il fallait qu'on remplisse les tuyaux. Et eBuzzing avait fait un travail fantastique de déploiement de commerciaux à l'international. Et je pense qu'ils étaient, eux, en quête plutôt d'un produit et d'une techno. Et au même titre que eux se sont dit, bah, autant s'adosser plutôt que d'essayer de les copier, nous, on s'est dit exactement la même chose, autant s'adosser plutôt que d'essayer de lever 15 ou 20 millions. Et on va tous gagner du temps, parce que du coup, d'un jour à l'autre, non seulement on a tout le réseau d'éditeurs ultra prestigieux, mais également on est capable de remplir les tuyaux. Et donc tout le monde est gagnant. Et c'est exactement ce qui s'est passé. On s'est adossé. En s'adossant, on a levé 25 millions juste après, parce qu'on avait du coup une proposition de valeur commune, une belle histoire à raconter. Et on a posé tous les jalons et on est monté au moment où je suis parti, on était à 200 millions de chiffre d'affaires et un peu plus de 500 employés.
Et à quel moment tu comprends que cette aventure, elle est en train de devenir quelque chose un peu hors norme? Parce qu'il y a vraiment un moment...
La levée des 4 millions, déjà, je savais que on avait craqué le truc. Et ça, mine de rien, dans la vie d'un entrepreneur... La première grosse étape, c'est justement de sentir qu'on a craqué le truc. Donc le fameux product market fit, c'est le truc où t'as même pas besoin de te justifier, tu vois que les chiffres montent, enfin qu'il y a un accueil favorable. Ou d'un coup d'un seul, les clients sont intéressés par toi. Quoi. Et ça, c'est t'as des demandes entrantes, t'as plein de signaux divers et variés qui manifestement te prouve que ça y est, t'y es, quoi. Et ben, cette étape-là, elle est fondamentale à trouver. Elle est extrêmement difficile. Ça serait si c'était facile de monter une start-up. Et quand vous l'avez trouvée, ouais, c'est jubilatoire à fond. Et donc, une fois que vous l'avez trouvée, vous savez qu'il vous reste une autre étape tout aussi importante, hein, parce qu'il y a des boîtes qui ont trouvé il y a plein de boîtes qui n'ont rien trouvé. Il y a des boîtes qui ont trouvé le product market fit, mais qui n'arrivent pas bien à opérer derrière. Et il y a des boîtes qui arrivent à faire les deux. Et donc là, après, la deuxième étape, c'est de correctement opérer, quoi. Et c'est sûr qu'avec avec e-buzzing, donc Pierre Chappaz, Bertrand Quesada, Gilles Moncobeg, Laurent Binard, etc., toute la team e-buzzing, nous, on se sentait extrêmement confiants quant à la capacité à exécuter correctement la vision. Quoi.
Et là, on parle d'une génération de un peu plus âgée, qui en tout cas a eu des succès.
Complètement. Complètement. Ben ouais, mais du coup, c'est vachement rassurant. Ouais. C'est vachement rassurant de vous adosser à un entrepreneur qui a déjà su ce qu'elle est, qui a déjà connu ça et qui est en train de reproduire.
Et d'ailleurs, à l'époque, on parle du Nasdaq.
On parle du Nasdaq.
Ouais. Non.
On parle du Nasdaq.
Et qu'est-ce qui a fait que, enfin, qu'est-ce qui a initié un peu cette idée? C'était quoi la vision derrière? Pourquoi le Nasdaq? C'était un.
Bah déjà beaucoup de bruit positif, mine de rien. Il y a du momentum à conserver, etc. C'était pas utopique, mais c'est pas se simplifier la vie. Hein.
C'est vrai.
Ah bah non. Non. C'est sûr que. E-Buzzing est une boîte un peu plus âgée que nous, donc tout est une question de cycle. Et effectivement, les investisseurs d'E-Buzzing commençaient à vouloir voir le bout de l'aventure E-Buzzing, pas Tease, mais E-Buzzing. Parce que quand on a combiné les deux, forcément, on s'est retrouvé entre actionnaires de Tease et actionnaires d'E-Buzzing. Et donc du coup, bah, de fait, la question est simple, hein, c'est comment est-ce que je récupère mon argent? Soit on va en bourse, soit on revend. Il n'y a pas trop d'entre deux possibles. Et du coup, on a émis l'hypothèse, on a poussé l'hypothèse loin. Ouais, sérieusement, très sérieusement. J'ai souvenir de pas mal de meetings. Avec les représentants. Mais putain, mais qu'est-ce que c'est casse-gueule, quoi. Qu'est-ce que c'est casse-gueule, ça tue des boîtes, hein.
Ah ouais.
Ça tue des boîtes. Et puis, la réalité, c'est que dans la tech, je te mets au défi de me trouver une seule boîte qui a performé en bourse, quoi. Donc quand tu vois des crashs en pagaille, le seul contre-exemple fort, c'était Criteo, qui était une belle boîte française, en plus, hein, parce que c'est un domaine habituellement réservé aux Américains. Cocorico, Criteo, y arrive super bien, mais sauf qu'on n'avait pas du tout les mêmes fondamentaux de business que Criteo. Et il y a une règle quand même, hein, dont je me souviendrai, si jamais j'ai l'occasion de le revivre un jour, c'est que il faut, dans l'absolu, vous pouvez rentrer en bourse, pas n'importe quel moment, mais assez rapidement. Mmh. Et le problème, c'est que si vous rentrez quand vous êtes trop petit, ça veut dire des valos à 300, 400, 500, 600, 700 millions, mmh. en fait, dès que vous êtes en dessous du milliard de valorisation, personne ne s'intéresse à vous. D'accord. Donc il y a très peu d'échanges de volume oui. sur votre titre qui est fait parce que les analystes ne s'intéressent pas à vous, etc. Et donc du coup vous avez quasiment tout à perdre en fait. Mmh. Donc il faut quand même sortir un peu de la mêlée, donc il faut être visible en bourse pour arriver à performer. Et donc il faut atteindre quand même une taille critique qu'on n'avait pas. Mmh. Voilà. Et ensuite, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de prédictabilité en bourse. Parce que bah, vous le savez, hein, quand on les voit passer les articles, hein, t'as l'analyste, enfin, les analystes sont déçus de la performance, machin, parce que bah, le management s'est engagé à faire tant, s'il ne fait pas tant, et bah, sanction. Et quand vous ne faites pas tant pendant deux ou trois trimestres, bah, votre boîte, elle peut être en très grande difficulté, selon l'ampleur du truc. Ils peuvent vous tuer, quoi. Ils peuvent tuer votre boîte.
Mais du coup, c'est un regret de pas avoir été au bout du processus ou de pas non,
pas du tout. Non, trop galère.
Ouais.
Trop galère. Franchement, moi, je trouve qu'on est. Il y a des boîtes qui doivent impérativement le faire. Mm-hmm. Mais vous voyez, même la réalité, c'est que même les. Il y a pas mal de. Même les grandes licornes américaines attendent le dernier moment pour y aller. Hein. Ils font Series F, G, H.
Il y a 20 milliards.
Non, ils attendent vraiment le dernier moment parce que c'est casse-gueule. Et puis, quand on voit Snap, ils sont malmenés. Alors que tant que vous restez privé dans l'absolu, vous craignez rien. Hein. Mm. Vous craignez rien. Enfin, pas rien, mais beaucoup moins en tout cas. Voilà. Donc, du coup. On a regardé toutes les hypothèses, et puis y en a une qui a abouti. Et puis, alors là, en plus, c'était. Si on avait dû écrire la plus belle sortie, je pense qu'on aurait écrit celle-là. Quoi.
Donc la sortie,
avec un acteur français, un industriel, du coup, quand même, mine de rien, un partage de valeurs. Puis je sais que le management qui est resté en place est resté maître à bord au quotidien.
Donc la sortie en question, c'est Altis.
Altis.
Qui rachète donc en 2017, c'est ça, en mars.
Officiellement.
Enfin, officiellement en mars.
Ouais, c'est ça.
Le processus, il a commencé bien avant puisque tu l'expliquais.
Au moment de mon départ.
Et on parlait News Corp aussi à l'époque, comme acquéreur potentiel.
Alors ça,
Rupert Murdoch, c'est une vague rumeur, ça.
On ne sait pas d'où ça vient.
C'est vrai.
Non.
Mais c'était pas vrai.
Ah mais pas du tout. Mais pas du tout, du tout.
D'accord.
Pas juste un peu, pas du tout. On a parlé avec des personnes, mais pas eux quoi. Donc quand on a vu ça, bon, on a rigolé hein, déjà. Mais par contre, on ne sait pas d'où est sortie l'information.
Mais comment tu gères la rumeur avec les équipes en interne?
On dit rien. En interne,
ça change quand même pas mal de choses pour les équipes.
De souvenir à titre personnel d'avoir eu le moindre grabuge sur un seul et unique article qui parle de une sortie avec Rupert Murdoch.
D'accord.
Non.
Donc d'autres acteurs s'y intéressent à l'époque?
Je préfère pas, mais oui, d'autres acteurs s'intéressent. Ouais.
Plutôt du secteur ou...
Plutôt du secteur.
D'accord.
Et
qu'est-ce qui fait pencher la balance à un moment donné pour Altis, on imagine le prix. Il y avait une valo de 285 millions, je crois, c'était ce qui avait été évoqué dans les bilans d'Altis à l'époque. Mais est-ce qu'il n'y a pas que ça?
Moi, je crois... fondamentalement, enfin, des fusions, des rachats, ou bref, des rapprochements, on va englober ça sous ce terme-là, il faut qu'ils soient vertueux, il ne faut pas qu'ils soient fratricides. Donc typiquement, quand vous absorbez une boîte qui est en frontale avec vous, vous pouvez être certain que ça va mal se passer. Parce que le management en place de la boîte que vous rachetez, c'est la... du coup, ne bah, trouve pas sa place. Donc c'est la cata. Et donc, soit vous êtes complémentaires, un peu comme finalement on a été avec eBuzzing. 100% du management est resté. 100%. Parce que chacun a trouvé sa place, parce qu'on était fondamentalement complémentaires. Soit vous êtes beaucoup plus petit que celui qui vous rachète, et dans l'absolu, vous êtes suffisamment petit pour qu'il vous laisse tranquille. Voilà. Il y a eu des typiquement, enfin, on a discuté des scénarios où on aurait représenté un pourcentage significatif du nouvel ensemble. Ben là, tu sais que non seulement tu n'as plus le contrôle, malgré tout, parce que tu es quand même racheté, mais en plus de ça, tu es ultra stratégique dans le nouvel ensemble. Donc du coup, il y a une pression folle sur un truc que dans l'absolu, tu ne maîtrises plus vraiment, et c'est pas confortable, quoi. C'est pas confortable. Nous, ce qui nous excitait fondamentalement, c'était l'innovation, c'était et l'autonomie. Et dans l'absolu, dans l'unsure, du coup, j'essaie de reproduire un peu les mêmes mécanismes. Bien, je sais que du coup, ce côté autonomie et innovation, chez Tids, le management qui est resté, du coup, parce que moi j'y suis plus, l'a conservé. Et du coup, tout le monde est aux anges. Tout le monde est aux anges. Ça n'empêche pas de continuer à avoir 50 à 60% de croissance. Ça n'empêche pas de continuer à attirer les meilleurs talents, etc. Donc c'est dans l'intérêt de tout le monde, finalement. Et voilà. Et d'ailleurs, tout le management est resté. Là, il n'y a personne qui est parti sur l'année 2000 là, qui s'est écoulée. Alors que très souvent, quand il y a des rachats, il y a la casse. Il n'y a pas eu de casse. Ça veut dire que ça se passe magnifiquement bien. Et ça, c'est une vraie réussite. C'est une vraie réussite.
Donc cette année-là, donc 2017, c'est une année vraiment charnière à titre professionnel, personnel. T'as un enfant cette année-là, en plus, non? Ou c'est la...
Oui, 2016. Mais, 2016. Mais
donc, tout se passe un peu dans...
Ah ben moi, 2016, 2017, 2018, oui, c'est sûr que ça va à 3000 à l'heure. Ouais.
Mais comment la question, c'est comment tu arrives à gérer un petit peu ça, donc la nouvelle entreprise, une vie familiale qui change, une vie familiale qui change aussi grâce au fonds généré par la vente ou la cession. Donc là, ça change la vie du jour au lendemain. Donc comment on gère cet ensemble de nouvelles choses?
En étant extrêmement bien entouré, déjà. Donc c'est sûr que sur le côté familial, heureusement qu'il y a ma femme pour tenir la baraque, pour parler, pour parler au sens propre du terme, là, pour le coup. Ouais, non, niveau personnel, ça, la réalité, c'est qu'il faut arriver à trouver un bon équilibre et qu'on essaye de préserver coûte que coûte. Et après, niveau professionnel, de toute façon, moi, j'ai besoin d'avoir le cerveau en ébullition en permanence. Et j'avoue que l'opportunité de pouvoir réécrire une nouvelle aventure en partant d'une feuille blanche, mais avec toute l'expérience accumulée auparavant, bah c'est quand même génial, quoi. C'est quand même génial parce que
c'est plus
tout va plus vite.
Après,
on continue à faire plein d'erreurs et tout, mais bah oui, non. J'avais promis à ma femme un tour du monde après Tiz. Je l'amenais faire le tour de l'île, mais elle m'en a pas voulu. Elle me connaît. Elle me laisse faire déjà, et ça c'est cool aussi. Ouais. Parce que c'est vrai que chez Tiz, c'était sportif. Hein. C'était sportif, mais on a tenu bon la baraque. Et oui, plein de gens me demandent « Mais pourquoi tu t'es pas allé... t'as pas fait un break ? Ne serait-ce que 6 mois ou je sais pas quoi. » Et bien encore une fois, je suis parti pour Launcher. Je vais pas dire « Alors j'ai Launcher en tête, mais je vais attendre 6 mois pour commencer à bosser dessus. » quoi. C'est pas possible. Vous avez un truc en tête qui vous hante à longueur de journée. Vous n'allez pas partir je sais pas où et rien faire, quoi. Donc, soit je restais chez Tid et je continuais l'aventure, soit je, je repartais sur un truc from scratch à fond la caisse, quoi. Mm. À 31 ans, l'image, de toute façon, même l'image de la personne qui va siroter un mojito sur une île, j'y crois pas. Donc,
ça arrive.
Ouais, une semaine.
Ouais. Donc il y a quand même une semaine de break. On est arrivé quand même.
Ah, j'ai eu une semaine de break.
Ah.
Entre une semaine officielle de break. Entre Tease Adventure. Mais pas plus, tu vois. Mmh. Donc c'est quand même court.
Bon, et qu'est-ce que ça change aussi dans le regard des gens qui t'entourent depuis des années, donc la réussite professionnelle, la vente d'une entreprise. Est-ce que tu vois des choses qui changent et comment tu les gères? Est-ce que tu as eu des gens qui t'ont conseillé aussi à ce moment-là?
Non, très sincèrement, moi je vois pas la différence. Vraiment. Je vois la différence pas d'un point de vue personnel, plus d'un point de vue professionnel, par contre. Personnel, dès l'instant où on reste tel qu'on est, il n'y a pas de raison que quoi que ce soit change. Par contre, d'un point de vue professionnel, oui, bien évidemment, vous pouvez justifier d'un succès et de l'expérience passée, ben y a pas mal de choses qui sont facilitées, c'est sûr. Mmh. On va pas se mentir, c'est même logique d'un certain point de vue, quoi. Mmh. Et c'est ce qui se passe, et c'est ce qui me permet de pour l'instant griller des étapes sur Launcher. Mmh. En termes de rythme, le match ne fait que commencer. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être complètement dans la récidive.
Jusqu'où? C'est quoi la sortie idéale?
Au moins aussi bien. Au moins aussi bien.
Donc, au moins une revente. C'est ça?
Enfin, une revente en tant que telle. En fait, la revente, c'est pas un but. C'est pas une fin en soi non plus. C'est une conséquence. Mmh. Je pense pas qu'on puisse trouver un bon entrepreneur qui soit focalisé sur la revente, parce qu'en fait il y a tellement d'embûches avant que si on pense à ça, on va nulle part, quoi. Et puis surtout, on peut faire des mauvaises décisions. Donc là, l'idée, c'est de grandir progressivement, le plus rapidement possible malgré tout, donc de mettre un bon rythme et advienne que pourra, quoi. Peu importe, quoi. Peu importe. Peu importe.
Il n'y a pas de scénario idéal préécrit?
Non. Non. Non, parce que même je vois chez Tiz, le scénario qui a eu lieu, on ne l'imaginait pas ne serait-ce que 6 mois avant. Mmh. Donc, j'en sais rien. On prend on regarde les opportunités telles qu'elles se présentent quand elles se présentent, quoi. Donc c'est vraiment ancré sur le moment présent quand même, mine de rien, l'entrepreneuriat. Parce que nous-mêmes, on pourrait racheter des boîtes aussi.
C'est ça.
Bon, aussi, hein, tu vois, donc il y a plein de scénarios. Ce qui m'importe, c'est de garder tous les scénarios ouverts le plus longtemps possible. Dès l'instant où on commence à se faire mettre dans un carcan, sauf qu'il peut, quoi. Ça craint. Ça craint parce que du coup, vous devenez prisonnier. Là, nous, aujourd'hui... chez Tiz, on était complètement libre de faire ce qu'on voulait, soit racheter, soit on avait suffisamment de cash pour racheter des boîtes. Mmh. On pouvait se faire racheter, on pouvait ne rien faire, on pouvait avoir des prêts, bref, tous les scénarios étaient ouverts jusqu'au dernier jour. Tout était ouvert. Le choix qu'on a fait, c'était un réel choix, c'était pas une contrainte. Ce qui permet de beaucoup mieux vivre certains événements, quoi. Et ben là, chez Launcher, pour l'instant, tous les scénarios sont ouverts. Et je veux continuer à ce qu'on puisse croître en gardant tous ces scénarios ouverts le plus longtemps possible.
Mais est-ce qu'il y a d'autres secteurs qui commencent un peu déjà à t'agiter ou sur lesquels tu peux commencer à phosphorer tranquillement après la publicité et la pause déjeuner, on va dire, pour faire large?
Je suis un monotache. Voilà. Donc je sais pas faire deux choses à la fois.
Donc pas d'investissement, tu fais pas du tout d'investissement?
Ah non, mais d'ailleurs effectivement, ça fait partie de je trouve que c'est j'admire vraiment ceux qui y arrivent. Mm-hmm. Et qui réussissent, hein, évidemment. Mais il y en a. Mais parce que je comprends pas.
T'es sollicité pour ça quand même, j'imagine.
Bah oui, mais bon, pas tant que ça non plus, parce que du coup, je pense que au niveau local, ça doit savoir que j'investis pas pour l'instant. J'ai pas dit non, j'ai dit pas pour l'instant, parce que je sais pas faire deux choses à la fois, quoi. Et j'ai déjà suffisamment. Enfin, moi, ma priorité, c'est ma famille et c'est Rancher. Donc déjà, ces deux piliers-là, si j'arrive à bien les gérer sans me mettre en péril, bah, ce sera tout. C'est parfait, quoi. C'est parfait. De manière générale, il ne faut pas faire les choses par contrainte. Et là, si je fais de l'investissement, ce sera la contrainte. J'ai pas le temps, quoi. J'ai pas le temps. D'ailleurs, le banquier, il devient dingue. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps.
Donc là, tu mentionnais la veille que tous les scénarios pour titres étaient ouverts jusqu'à la veille de la signature.
Ouais.
Tu te souviens justement de cette veille, de la nuit qui précède? Est-ce qu'il y a des choses un peu...
Ça se fait pas comme ça. Moi, il n'y a pas de moment où tu dis la veille, la nuit, le machin. En fait, ton process, il est long quand même, malgré tout. Tu as plein de discussions, tu as plein de... Et donc, du coup, tu te fais à l'idée à plusieurs scénarios en même temps, machin. Et très sincèrement, ça se décide... Enfin, il y a des évidences. Donc, il y a des choix qui ne sont pas très compliqués à faire.
Mais le
quand tu es décidé et quand tu as ce qui te semble... Bon, à partir de là, go quoi.
Mais le jour de la signature, une fois que c'est voilà acté, comment vous marquez le coup? Vous marquez le coup quand même, j'imagine, avec les co-founders,
bah,
les
co-fondateurs. Bah, très peu.
Même pas.
Très peu. Rien de. En fait, c'est marrant parce que moi j'ai vraiment eu cette impression de business as usual quoi. Y a rien qui change. Au quotidien, il n'y a rien qui change. Tu te lèves à la même heure, il n'y a rien qui change, fondamentalement. Quoi. Donc oui, maintenant, tu es tamponné d'un succès, ça change. Oui, tu as fait une sortie, mais toi et ton quotidien, tu ne changes pas. Et donc, à partir de là, même le management qui est resté, moi, je ne les ai pas vus changer, parce qu'en fait, il n'y a rien qui a changé. Donc, et c'est vrai, tu vois. Mais il n'y a rien qui a changé parce que c'était la bonne sortie au bon moment avec les bonnes personnes qui te laissent tranquille aussi. Tranquille dans le sens positif, hein, ça ne veut pas dire que tu fais ce que tu veux. Hein. Encore une fois, il y a des vrais perfs. Parce que faire 50 et quelques pourcents de croissance quand tu fais déjà 300 millions de. Presque 300 millions de chiffre d'affaires, il faut encore les faire les 50% de croissance, quoi, tu vois. C'est pas comme ça. Et donc, à partir de là, tout le monde est content. Moi, je sens beaucoup de sérénité de tout le management Teas.
Et t'envisageais à un moment donné l'échec? Tu t'es dit, que ce soit à travers Teas ou même Launcher, si c'est plus récent, est-ce que tu t'es dit à un moment donné, là, on n'est pas bien, le scénario, ça pourrait mal tourner, quoi?
Moi, je pense qu'il faut vivre avec ses moyens. Et donc, tu vois, avant qu'on lève les 4 millions, ben, on était autosuffisant. Alors, on était une toute petite boîte. Hein. Et on gagnait notre vie, on recrutait à notre rythme. Et dans l'absolu, on n'était pas en danger, tu vois. Bon. Peut-être plusieurs années après, parce qu'on se serait peut-être fait sortir du match par un plus gros. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on voulait aller vite et fort. Mais à ce moment-là, je me sentais pas en danger. Donc on allait bien, on a levé 4 millions, donc de fait, tu te sens pas encore en danger, et on enchaîne immédiatement avec la fusion e-buzzing, et sur lequel on relève 25 millions, et on connaît le succès commun qu'on a vu. Donc là, sur toute cette période-là, si tu veux, tu te sens pas en danger fondamentalement. Et on n'est pas arrivé à un stade de développement suffisamment fort pour se dire, putain, ça y est, on n'a plus qu'un scénario possible, c'est soit on va en bourse, soit on meurt, ou soit on se fait racheter à la casse, ou soit on meurt, quoi, tu vois. À chaque moment de l'aventure Tease, on savait qu'on pouvait encore être acheté par un plus gros que nous, parce que dans l'absolu, on valait que 300 millions, que, entre guillemets, bien évidemment, hein, mais ça reste atteignable pour pas mal de groupes d'acheter des boîtes à 300 millions. Et que dans l'absolu, on était suffisamment fort dans notre business actuel pour pas non plus se faire envoyer paître par d'autres acteurs en puissance, quoi. On pouvait pas mourir du jour au lendemain, adossé ou pas adossé. Là où tu peux mourir quand t'es très petit, là quand tu fais 300 millions, que t'es leader aussi, c'est important, la position en tant que telle. C'est pas que le chiffre qui compte, c'est aussi ta position sur le marché. Quand t'es leader sur ton segment, bon, tu peux pas te faire sortir comme ça. Donc non, la réponse en un mot, c'est non.
Est-ce qu'il y a des... Est-ce que je tombais sur un article où tu donnais ta liste de livres un peu fétiches, ouais. Des choses très différentes. Donc il y a le Miracle Morning, ouais. Notamment, ou Sapiens. Est-ce que t'as besoin...
Sapiens, il est top.
Ouais. Est-ce que t'as besoin de te nourrir de choses comme ça un peu extérieures, justement pour façonner un peu une approche plus sereine oui. Vis-à-vis d'un business qui est un monde économique qui est très rude de manière générale.
Ouais. J'essaie dans la mesure du possible d'être le plus force tranquille possible. Donc oui, ça passe par malgré tout s'inspirer. On ne progresse qu'en s'inspirant. J'essaie d'être éponge le plus possible. Et je suis en souffrance dès l'instant où j'ai l'impression de plus rien apprendre. Donc à partir de ce moment-là, oui, j'essaie de je lis pas mal de livres qui... typiquement, je déteste les romans. Quoi. J'ai pas besoin de m'évader en tant que tel. J'ai besoin d'apprendre. Et donc je dévore pas mal de choses.
Et Miracle Morning, donc qui met en place ou qui prône un lever plus tôt le matin pour profiter, avoir du temps à soi. Est-ce que c'est quelque chose que tu as réussi à mettre en place?
Non. Non. Moi, j'y arrive pas. Typiquement. J'essaie, j'y arrive pas. Moi, je pense que c'est parfait pour les gens qui sont du matin. Moi, je suis du matin psychologiquement. C'est-à-dire que tu me verras jamais de mauvaise humeur le matin. J'en vois pas chier, tu peux me parler, au contraire, je suis plutôt cool, quoi. Mais par contre, de là à me lever à 5h du mat pour aller faire du sport, etc., non, il y a une frontière que j'ai pas envie de franchir. Et puis, à chaque fois que j'ai eu l'occasion de le faire, notamment quand j'étais en déplacement à l'hôtel ou comme ça, ça me va pas du tout. Et puis je suis content de me lever en famille. Du coup, j'ai pris un rythme où je me lève en famille. À 7h30, c'est l'heure du réveil de tout le monde. Donc à partir de là, pendant une heure jusqu'à l'école à 8h30, je suis avec ma famille. Et c'est important.
D'accord. Et par rapport à Sapiens, tu disais que c'était un ouvrage qui, lui, était important aussi. Dans quelle mesure? Moi, je trouve qu'il apporte plein de choses. Il aborde plein de sujets, la coopération entre les hommes, notamment.
Bah ouais, complètement. L'évolution, tout simplement. Et c'est intéressant de voir à quelle vitesse les choses ont accéléré. Quand tu regardes les premiers chapitres, tu te rends compte qu'ils ont mis... je ne sais plus combien, 15 000 ans, 20 000 ans, je crois, à ne serait-ce que conquérir les différents continents. Et que maintenant, tu vas à New York en 6 heures. C'est n'importe quoi. Donc, tout s'est accéléré. Il faut vivre avec son temps. Mais effectivement, je suis pas certain que l'évolution n'ait fait que du bien.
Et aujourd'hui, quand tu vois certains entrepreneurs de la tech, justement, comme Musk, Elon Musk ou autres, qui parlent de porter cette évolution encore plus loin. Jusqu'à Mars, en l'occurrence, ça t'effraie, comment tu l'as...
Moi, ce qui m'effraie, c'est de... Après, il y a beaucoup de... Moi, ce qui m'effraie, c'est de... C'est la non-conscience de tout un tas de personnes. je ne suis pas un saint, loin de là, hein, au niveau écologie, etc. Je suppose qu'on peut toujours faire mieux. Mais il y a vraiment des abus incroyables. Incroyables. Et là, il y a des dérèglements. Mais non, mais il y a des dérèglements de partout. J'ai eu l'occasion un peu de voyager. J'ai eu une chance inouïe, là. Je sais pas, on est parti aux Maldives. Aux Maldives. Mm-hmm. Et ils te disent qu'en 15 ans, il y a
tes filles.
Ouais. Puis il y a tout qui a changé. Toute la faune, la flore. En 15 ans. En 15 ans. C'est pas normal. Et donc. Voilà. Je pense que qu'on est en train de faire du mal à la planète. Vraiment. Et j'aimerais que ça bouge, mais je pense que l'humain n'est pas capable de bouger tant que c'est pas trop tard. Quoi. À ce niveau-là, hein, pas à petit périmètre. Mais ça veut pas dire qu'il faut abandonner, ça veut pas dire qu'il faut se faire, mais ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur, hein. De voir certaines choses, c'est pas possible. Quoi. Donc il y a certains peuples qui sont pas trop dans la conscience encore. Why not? Et puis c'est très compliqué aussi de dire, parce que quand on voit que nous, la France, je crois que après il y a beaucoup de communication derrière, hein, entre le vrai et du faux, le machin, tout ça c'est très compliqué à savoir. Hein. Est-ce que le réchauffement climatique il est 100% généré par l'homme, ou 90% ou 50%? Moi à titre perso j'en sais rien. Ce que je sais c'est que par contre on voit des déchets partout dans les océans, ça peut pas faire du bien à l'océan. On voit nos techniques de pêche avec les... soit la pêche électrique, soit avec en profondeur, ça peut pas faire du bien aux océans. Alors après, oui, il faut manger. Et puis après, oui, bah, c'est des Français qui parlent, où effectivement, comme là, ça a communiqué, je crois, il y a début mai, la France, début mai, a consommé... s'il n'y avait que des Français sur Terre, il y aurait déjà plus de ressources début mai. Voilà. Bon. Je sais pas ce que ça veut dire, j'en sais rien, comment ils ont calculé leur truc, etc. Mais je pense qu'il y a quand même une tendance de fond qui est pas normale. Donc j'espère que collectivement on arrivera à se raisonner. Mais je suis quelqu'un d'extrêmement optimiste. Mais la puissance des lobbies et l'égoïsme des uns et des autres, tant que ce sera pas trop tard.
Et t'en parles de ça aux jeunes entrepreneurs, aux futurs entrepreneurs que tu croises, et pour les inspirer peut-être à se lancer dans l'entrepreneuriat avec un peu d'impact environnemental ou social ou autre?
Je peux pas donner des leçons.
Non, mais au moins...
Parce que moi-même, je suis pas investi dans une cause en particulier, pour l'instant. Je pense que ça viendra. Mais pareil, je suis un peu monotache. Mais oui, en tout cas, déjà... Dans mon quotidien, j'essaye d'être le plus respectueux possible, mais c'est une goutte d'eau. Alors oui, ça part par là, mais non, là, je pense qu'il faut un pouvoir politique extrêmement fort et global. Et tu vois, pareil, l'évolution, ça veut dire quoi, l'évolution? Si l'évolution, c'est de faire des batteries en lithium de partout... dont on ne sait même pas quoi foutre, on est en train de détruire les montagnes entières pour récupérer le truc. Beaucoup de com, hein. Beaucoup de communication, hein. Donc c'est compliqué, c'est des sujets vraiment complexes, vraiment complexes. Je pense que ça va, je pense qu'il y a une prise de conscience de plus en plus forte de plus en plus de personnes. Et il faut continuer dans ce sens-là. Et il faut pas baisser les bras, quoi. Mais c'est vrai que c'est inquiétant. C'est vrai que c'est inquiétant.
Loïc, merci.
Merci beaucoup.
Vous venez d'écouter Take Off. Merci pour votre soutien, vos encouragements, vos critiques. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast favorite ou me contacter pour me laisser un commentaire ou une idée via Twitter @gbrejeras.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.